Et dans quelques instants, la revue de presse. Nicolas Moscovici sera avec nous, un rédacteur en chef de la Dépêche du Midi. En attendant, c'est avec Frédéric Brindel, c'est hashtag on en parle.
Oui, hashtag on en parle, et sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, on parle beaucoup de Valérie Pécresse, hein, qui est en une, avec ses déclarations hier sur le Karcher à ressortir. Ça a inspiré beaucoup les internautes.
Hein. Oui, et d'ailleurs, pas que sur le Karcher. La question des prisons fait des cibles collatérales dans l'entourage de la candidate LR. Après Nadine Morano évoquée tout à l'heure, place aux époux Balkany. Ça part donc de cette déclaration.
On est en crise d'autorité. On vit une impunité permanente des délinquants. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va ouvrir des centres de détention provisoires dans des bâtiments désaffectés avec l'aide de la pénitentiaire. Et dans ces centres de détention provisoires, on mettra des délinquants, des primo-condamnés, des courtes peines sous bracelet électronique. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ils n'exécutent pas leur peine, on leur met à la cheville un bracelet électronique et on les renvoie dans leur quartier. Vous imaginez la détresse des habitants ?
Alors, vous avez bien entendu, c'est parti, les twittos sont lancés. Nono encore, averti avec un laconique hashtag Balkany Sarkozy. Sébastien Fontanelle ajoute à la liste Claude Guéant, condamné, François Fillon, condamné, tous du parti de la candidate Pécresse. Bestiole, le bien nommé, poste la photo de Patrick Balkany, chapeau et écharpe virevoltant au vent, dans sa résidence secondaire arborée et pavée. Les twittos retweetent cet article du Parisien datant du 4 janvier qui précise « Le placement sous bracelet électronique du couple Balkany a été révoqué en décembre. Le couple qui souhaite absolument éviter la prison a fait appel. L'appel étant suspensif, ils sont donc libres. » Et l'avocat, c'est là que c'est beau, l'avocat du couple Balkany ajoute « Il y a eu certains incidents de sonnerie et un peu de désinvolture. Ils n'ont pas le droit de sortir de la maison, mais quand le chien sort, ils courent après. Quand le facteur passe, ils sont au portail. » Et là, paf, le bracelet électronique sonne. C'est sûr que dans les centres de détention provisoire voulus par Valérie Pécresse, les chiens policiers, eux, sont tenus en laisse, mais elle devra quand même statuer sur la venue du facteur.
Merci donc Frédéric Brindel. Allez, on poursuit avec les journaux. On va les lire et regarder les unes de la presse. Dans un instant, on sera avec Nicolas Moscovici de la Dépêche du Midi. Tout d'abord, Omicron, hein, encore et toujours à la une de la presse, et par exemple avec ce titre de Libération, le vertige.
Près de 200 000 contaminations détecté quotidiennement. Doublement des cas tous les 5 à 6 jours. Libération donne la parole à des épidémiologistes et chercheurs pour évoquer un pari risqué, le pari de l'exécutif de laisser filer la pandémie pour viser une immunité collective. Le Parisien aujourd'hui en France, lui aussi, se focalise en une sur Omicron qui sème la pagaille à l'école. Vous venez d'en parler. 9200 de classes fermées, 47 000 cas positifs chez les enfants, 5600 chez les adultes. La circulation intense du virus désorganise la scolarité et la vie quotidienne des 12 millions d'élèves français de leurs parents.
C'est ça. Crise sanitaire qui impacte le sport, on l'a déjà vu en fait ce matin, on en a parlé beaucoup dans les journaux, et qui impacte aussi les entreprises. Hein.
Oui, alors Corse Matin évoque ces chefs d'entreprise mobilisés face à la crise. Le tout nouveau président du MEDEF local affirme que la santé générale des entreprises dépendra du traitement du prêt garanti par l'État. Le ministre vient aussi d'en parler. Certains tirent toutefois leur épingle du jeu. La voiture électrique est à l'honneur dans la montagne, avec un savoureux l'électrique mais les gaz. La part de marché de l'électrique double, voire triple, chaque année dans le Puy-de-Dôme.
Oui, allez, on poursuit maintenant avec Nicolas Moscovici, rédacteur en chef adjoint de la Dépêche du Midi, qui est avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour à vous.
On poursuit un petit peu sur ce que disait Frédéric Brindel avec l'ensemble en fait des impacts et notamment, alors je crois à la Dépêche sur les tests. Hein.
Oui, exactement. Donc voilà, nous on a voulu aborder la maladie par l'angle des tests. Effectivement, ces tests massifs, ces files d'attente qui cessent de se rallonger, vous le voyez tous devant les pharmacies ou les centres de tests. Donc on s'est posé la question de savoir si cette politique était utile. On sait que la France est le deuxième pays au monde qui teste le plus par rapport à son nombre d'habitants derrière la Grande-Bretagne. On sait que ça a coûté 1 milliard d'euros en décembre, donc on s'est posé la question de savoir si ce testing massif, ce dépistage massif était aussi utile ou pas. Alors il l'est, hein, pour les spécialistes, il l'est au niveau individuel pour savoir évidemment si on est contaminé ou pas et comment agir en conséquence. En revanche, il y a des médecins, des spécialistes qui s'interrogent sur sur cette doctrine du tracé testé isolé, oui, et qui considère qu'elle est caduque face à un Omicron, un variant Omicron extrêmement contagieux et contre lequel finalement on ne peut pas lutter, quoi. Oui. Donc en plus de ça, ce variant semblant moins dangereux, avec un vaccin qui protège aussi contre les formes graves, voilà, certains médecins disent pourquoi ne pas faire confiance à des systèmes un peu plus conventionnels de surveillance du virus, comme le réseau Sentinelle qui fonctionne pour la grippe ou les gastro-entérites.
Oui, piste très intéressante en tout cas, hein, soulevée donc dans vos colonnes ce matin. Nicolas Moscovici, d'un mot aussi, vous revenez sur cette grève qui touche Toulouse déjà depuis un bon bout de temps, la grève des éboueurs. Hein.
Oui, voilà, alors ça c'est plus visible qu'au Micron, ouais, dans les rues de Toulouse. Ouais. C'est effectivement les poubelles qui débordent depuis la mi-décembre. Ouais. Alors le problème donc vient d'une réforme du temps de travail des éboueurs de la métropole et la fin d'une pratique dite du parti fini. Alors sur le principe, la réforme est passée, si vous voulez. Maintenant, ce qui achoppe, c'est le nombre de jours de congé que l'intersyndicale réclame en contrepartie au titre de la pénibilité. Ouais. L'intersyndicale en réclamerait 34, la métropole serait prête à en accorder 11, et en plus de ça, donc le gap était assez important, et en plus de ça, la situation se tend un peu quand le maire de Toulouse hier a brandi la menace de la privatisation de la collecte des déchets. Donc on voit quand même que la sortie de crise n'est peut-être pas pour tout de suite.
Oui, complètement. Merci Nicolas Moscovici. On s'aperçoit d'ailleurs à cette occasion que le fameux parti fini, hein, qu'on attribuait souvent à Marseille, n'est pas réservé uniquement à la cité phocéenne. Hein. Il est dans beaucoup d'autres villes, quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai que bien souvent, on le voit, y compris dans les petites communes, où les éboueurs se dépêchent évidemment de terminer en fait un tout petit peu plus tôt, d'effectuer leur tournée et pour rentrer un petit peu plus tôt chez eux. Après,
pour enchaîner sur un second boulot, quoi.
Donc, exactement, Nicolas Moscovici, exactement. Merci beaucoup, hein, rédacteur en chef adjoint de la Dépêche du Midi. Tout ça, c'est à lire dans la Dépêche et puis aussi beaucoup, hein, sur la version numérique qui, je le sais, connaît un grand succès. Allez, dans un instant, les grands débats du matin. On va poursuivre avec l'ensemble de nos éditorialistes.
Hein, oui, ce sera Thierry Gaillet et Philippe Bilger, et vos appels comme tous les matins 0826 300 300. N'hésitez pas à nous parler de votre actualité, à témoigner bien entendu, à commenter nos questions du jour, et on revient dans un instant, à tout de suite.